Alors, nous sommes aujourd'hui dans un délicieux jardin à Cournon-Terral, dans le jardin de M. Roberto Tricari. Alors, Roberto Tricari, bonjour Roberto Tricari.
Bonjour.
Donc, vous êtes accordéoniste, mais aussi compositeur, mais pianiste. Vous dirigez des groupes. Et puis, vous êtes aussi, comme musicien, vous êtes un passionné de cinéma. Et ça vous amène à nous donner un bel exemple de ce que vous faites le 20 octobre au Théâtre Jean Villard. Alors, déjà, votre démarche artistique, quelle est-elle ?
Alors, je me consacre depuis fort longtemps, dans les années 80 déjà, ça nous rajeunit, et à quelque chose qui me passionne, qui est ce que je nomme le jeu amoureux de la musique et de l'image. Et donc, à travers le cinéma muet, j'ai trouvé vraiment un terrain d'aventure sans limite. Et puisque le cinéma muet, on le sait, a tout inventé dans les styles, dans le genre, donc finalement permet toutes les aventures. Et moi j'ai abordé cette histoire-là d'abord avec presque comme une image d'Épinal, c'est-à-dire j'improvisais au piano sur Buster Keaton, qui est pour moi le maître absolu de cette époque du cinéma burlesque en tous les cas. Mais très vite, j'ai senti le besoin de l'écriture. Alors moi, j'ai une formation classique. Mm-hmm. J'ai commencé l'accordéon à l'âge de 6 ans, fils d'Italien oblige. Mais très vite, je suis rentré au conservatoire. J'ai suivi des cursus violon, composition, harmonie, voilà. Donc, j'ai senti ce besoin d'écrire, tout simplement parce que l'écriture permet la réflexion et permet d'affiner vraiment le propos musical, tant dans son style, dans sa couleur, mais aussi porté par un instrument qui, finalement, chaque fois, va mettre en vibration un imaginaire collectif. Je donne un exemple. Prenons un plan séquence sur une rivière. Si on joue de l'accordéon, quelque part, on n'est pas loin de Paris, où il va y avoir une péniche, ou c'est samedi soir. Enfin, voilà, il y a des choses qui rentrent comme ça en jeu dans l'imaginaire. Et puis la musique, finalement, a beaucoup de pouvoir sur l'image, énormément de pouvoir. Et ça, c'est passionnant. C'est-à-dire, en fait, le cinéma, c'est un peu une grand-messe autour de l'écran. Mais à l'instant même où les yeux, le regard capte l'image et raconte une histoire, se glisse à l'instant dans l'oreille la musique. Ou l'absence de musique, ou je ne sais pas. Mais en tous les cas, se glisse quelque chose qui va nous faire interpréter, presque à notre insu, l'image... l'histoire qui déroulait à travers l'écran. Et alors, bien sûr, il y a des grands poncifs. Hein. Voilà, si on envoie les cordes, les violons, voilà, tout de suite, on est dans un mélo. Enfin, voilà, on peut faire très très vite peur. Hein, les dents de la mer.
Avec quand le fameux petit N de John Williams.
Mais bon, en tous les cas, c'est souvent à notre insu, l'histoire est aussi racontée par la musique.
Alors, oui. Quand vous dites ça, je dis bon, ce complément, hein, ces deux langages qui se marient, et pourtant il y a des cinéastes qui sont, ils ne sont pas très fréquents, mais très anti-musique, qui ne veulent pas de musique, et d'autres qui... Et souvent, on entend cette critique de musique complètement redondante par rapport à l'image, qui n'apporte strictement rien. Alors, je pense par exemple à quelqu'un comme Robert Bresson, des musiques dans le cinéma de Robert Bresson, il n'y a pas... Alors, quel est votre rapport à ça? Ça vous paraît indispensable? Ça vous paraît superflu? Et comment on échappe à cette redondance entre l'image et la musique?
Eh bien, justement, ça, c'est une des questions que je me pose constamment. Déjà, enfin, je fais un petit aparté sur ma démarche. Par exemple, à chaque film, j'ai un orchestre différent. Voilà, c'est presque le film qui va me donner les cartes à jouer. Parce qu'un violoncelle, voilà, on parlait de l'accordéon tout à l'heure, mais un violoncelle, tout de suite, ça nous emmène vers une forme de romanesque, de romantisme. Un sax ou une trompette ou une guitare électrique actuelle, tout ça, ça nous apporte autre chose. Tout de suite, ça nous embarque quelque part. Donc, par rapport à votre question, effectivement, tout dépend du film. Il y a des films, qui, pour moi, par exemple, sans la musique, tous les films de Fellini, par exemple, avec Nino Rota, on peut dire que la musique apporte quelque chose de fondamental. Donc, comment on reçoit l'histoire que raconte le film. Tout de suite, ça nous plonge dans une ambiance, dans un milieu, dans quelque chose de très multiple aussi. Voilà. Et puis, d'autres films... Alors, moi, je suis frappé. Alors, je suis peut-être mauvais juge, mais quand je regarde des films anciens, même avec des noms prestigieux, je suis souvent très gêné par la musique qui devient... Ça a mal vieilli. Ça a très, très mal vieilli. La musique d'un certain... D'ailleurs, souvent, la musique vieillit plus mal que les images, sauf quand il y a vraiment une vraie rencontre. Voilà. Donc, c'est vrai que on met toujours en avant cette surexposition musicale, mais c'est des choix artistiques au départ. Moi, je pense. À contrario de ça, il y a évidemment des couples réalisateurs-compositeurs qui sont indissociables, qui sont éternels presque. Hein.
Oui, vous évoquez Fellini et Rota. On pourrait. L'autre grand classique, c'est Hitchcock et Bernard Herrmann. Mais on pourrait en trouver d'autres.
On peut en trouver d'autres, c'est sûr. C'est vrai que les trois notes à l'harmonica d'Été une fois dans l'Ouest, si elles n'y étaient pas, ça serait un autre film, je ne sais pas, en tous les cas. Donc, il y a en fait, la musique et l'image, c'est une histoire de couple, une histoire d'amour et de couple. Et comme tout couple, et comme toute histoire d'amour, il y a des histoires qui finissent mal. Et qui sont plus ou moins, plus ou moins heureuses, quoi. C'est ça qui est passionnant. Alors, voilà. Donc moi, par rapport à ma démarche sur les films muets, la première des nécessités, c'est de créer l'orchestre. Et d'ailleurs, ça va sans dire, puisqu'il y a eu deux créations importantes, d'ailleurs, je veux dire, au niveau de l'envergure, où je ne jouais pas, parce que ni le piano ni l'accordéon n'avaient sa place. Et par exemple, j'ai approché le Don Quichotte d'Orson Welles, qui est un montage de Rush, non sonorisé, quasiment non monté, enfin seulement par des petits segments de quelquefois quelques minutes. Voilà. Sur ces images-là, j'ai eu l'idée d'ouvrir sur une dimension un peu opératique. Donc j'ai embauché un bariton, opéra. J'ai demandé à Jean-Claude Carrière de faire le livret. Et il y avait un texte aussi qui était dit par Didier Flamand, acteur sur scène. Et les musiciens étaient en liberté sur la scène. Quelquefois, traverser l'image, était dans l'image, enfin voilà. Donc, il y avait des instruments comme la sakeboute, comme des instruments d'époque, mais pas que, aussi des instruments plus modernes, saxophone et tout ça. Mais moi, je n'avais pas ma place. Enfin, je ne voyais pas comment intégrer l'accordéon ou un piano qui aurait été statique. Voilà. Donc, à chaque fois, c'est construction de l'orchestre qui est essentielle. Et ça nous amène à la Sultane de l'amour.